Les secrets des amis de Versailles.
Panorama 3, Versailles, après le Roi Soleil.
Il se tue à la tâche.
On rencontre un artiste qui se couche 3 ans.
Nous sommes en juin 1737. L'ambiance à Versailles est au désespoir. Le peintre Lemoine vient de mettre fin à ses jours. C'est l'incompréhension. Pourquoi un tel geste, alors qu'il venait d'achever le plafond du salon d'Hercule? L'œuvre est un vrai triomphe. Le roi lui avait même décerné le titre de premier peintre. Pourtant, c'est ce plafond qui a causé sa perte. Petit retour en arrière. Le plafond en question est une commande de Louis XV. C'est un chantier colossal, ambitieux, et le moine fait tout pour être à la hauteur de la mission. Littéralement. Au lieu de travailler tranquillement dans son atelier, il décide d'installer sa toile directement au plafond. C'est tout là-haut, perché sur son échafaudage, allongé sur le dos, qu'il mène à bien la commande. Il exécute plus de 140 personnages représentant l'apothéose d'Hercule, c'est-à-dire son arrivée parmi les dieux de l'Olympe. Et comme il est perfectionniste, le moine n'accepte que très exceptionnellement l'aide d'assistant. Il met 3 ans pour terminer son œuvre. Lorsque le roi découvre le plafond achevé, il reste figé d'admiration. Devant cette scène grandiose en trompe-l'œil, le philosophe Voltaire déclare « Il n'y a pas en Europe de plus vaste ouvrage de peinture que le plafond de Lemoine, et je ne sais pas s'il y en a de plus beau. » Les efforts du peintre ont payé, l'effet est saisissant. Hercule, sa massue à la main, se détache dans le ciel d'un bleu profond. Un bleu qui est, malheureusement, si cher que le peintre est criblé de dettes. Et comme si cela ne suffisait pas, le moine sort de son chantier absolument épuisé et toujours rongé par la tristesse du décès de son épouse quelques années plus tôt. En 1737, c'en est trop. Le moine se suicide de plusieurs coups d'épée. Il a payé le prix du sang l'exécution du plafond le plus impressionnant de Versailles.
Aujourd'hui encore, le plafond de Lemoine est regardé comme un exploit artistique. D'ailleurs, pour restaurer ce chef-d'œuvre qu'il réalisa presque seul en 3 ans, il fallut la collaboration de 13 restaurateurs pendant 2 ans. Et pour financer ce travail de précision, la Société des Amis de Versailles a su convaincre BNP Paribas d'être mécène de ce chantier. Redonner sa splendeur à ce plafond était légitime, car s'il est pour beaucoup dans le suicide de François Lemoine, il lui a aussi ouvert les portes de l'immortalité au Panthéon des artistes.
Retour au bercail.
Où l'on apprend qu'à Versailles, quand on fait partie des meubles, c'est pour toujours.
En 1999, le château de Versailles s'intéresse de très près à une vente aux enchères organisée à Londres. Parmi les lots présents au catalogue, un objet mythique du mobilier de Versailles a été repéré. Il s'agit de la luxueuse commode de Louis XVI. Au XVIIIe siècle, elle ornait la bibliothèque du roi. Mais que fait-elle en Angleterre? Le doute n'effleure même pas l'esprit des experts du château de Versailles. Cette merveille est bien la commode de Louis XVI. Le roi en personne a chargé le très célèbre ébéniste Jean-Henri Riesner de la concevoir avec des matériaux précieux. Et celui-ci n'a pas fait les choses à moitié. Amarante, sycomore, tulipier, érable, acajou. Toutes ces essences de bois se mêlent pour composer un véritable tableau. Quant au bronze doré, c'est le prestige du roi qui s'affiche à travers le luxe de cette commode. Mais pourquoi a-t-elle quitté Versailles ? Pour éclairer cette histoire, un voyage dans le temps s'impose. Cap sur l'année 1793, en pleine Révolution française. Versailles n'a plus de roi. Le château est abandonné, ou presque, car cette année-là, les révolutionnaires s'y activent. Ils préparent une vente énorme. Liquidation totale. Ils veulent faire table rase du passé et, par la même occasion, remplir un peu les caisses du pays. Louis XVI n'étant plus de ce monde, sa commode quitte Versailles pour la collection particulière d'un duc anglais. Revendue ensuite à des Autrichiens, elle est confisquée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ses propriétaires obtiennent sa restitution. C'est eux qui la mettent en vente en 1999, attirant les yeux exercés des conservateurs du château. Une occasion comme celle-ci, ça ne se rate pas. Avec l'aide d'un grand mécène privé, la Société des Amis de Versailles rachète la commode et lui permet, après tant de péripéties, de reprendre sa place dans la bibliothèque royale.
De nombreux meubles versaillais ont connu de tels parcours. Quand l'occasion se présente, les amis de Versailles aident à les faire revenir au château.
Meilleur ouvrier de France.
Où l'on apprend que les princes peuvent être habiles de leurs mains.
Nous sommes en 2006. C'est un objet curieux qui est mis en vente. Un tour mécanique. Ce type d'objet est utilisé par les artisans pour les assister dans certaines tâches manuelles. Il est actionné par une pédale et demande beaucoup de dextérité. A priori, rien de bien prestigieux. Sauf que celui-ci n'est pas n'importe quel tour. Il porte les armoiries du comte d'Artois, le dernier frère de Louis XVI. Mais pourquoi un prince de France posséderait-il un tel objet? Surtout que ce type de tour est dit à guillocher, du nom de son inventeur, Guillot. Il permet de graver des arabesques sur les boîtes des montres et les pièces d'horlogerie. Voilà une occupation qui semble bien peu royale. Détrompez-vous, au XVIIIe siècle, on accorde beaucoup d'importance à l'éducation des princes. Et notamment, tout ce qui est formation aux sciences. On confie les petits garçons aux meilleurs savants. Et comme l'apprentissage théorique ne suffit pas, il y a aussi des savoirs pratiques. Ainsi, les princes apprennent autant les mathématiques et la géométrie que le tournage de l'ivoire et la mécanique de précision. Ce qui est, accessoirement, un bon moyen de leur enseigner la patience. Mais cela n'a pas suffi au comte d'Artois. Il s'est pris de passion pour l'horlogerie. Son tour à guillocher faisait partie d'un véritable atelier de mécanique. Preuve de sa provenance royale, il est recouvert de feuilles d'or et finement ciselé de fleurs de lys. D'ailleurs, le château de Versailles ne s'y est pas trompé. Il a acquis l'objet classé trésor national. Le tour a désormais regagné le château et surtout son cabinet scientifique.
Cette acquisition a pu se faire en 2006 grâce au mécénat de la société Lucis par l'intermédiaire d'un ami de Versailles.
Cabinet secret.
Où l'on apprend que Louis XVI n'aimait pas beaucoup les angelots.
En 1789, Louis XVI connaît un certain nombre de mauvaises journées. Mais il y en a aussi de bonnes. La journée pendant laquelle on lui remet les clés de son cabinet de garde-robe, par exemple. À sa demande express, cette petite pièce de ses appartements privés vient de recevoir un sacré coup de jeune. Là, à l'écart du regard des curieux, Louis XVI a pu choisir son décor, qui n'a sans doute pas manqué de surprendre les artistes. En effet, le roi fait fi des goûts de son prédécesseur. Terminé les angelots qui volaient sur les murs, les arabesques et les sujets frivoles. Sur les boiseries sculptées par les frères Rousseau, au milieu du feuillage doré, on trouve des motifs qui ne se voient pas partout. Un livre de comptes, un instrument de mesure, ou encore une machine de levage. Un décor bien sérieux pour une garde-robe. Et pour cause! Cette pièce n'était pas une penderie, comme le laisse penser son nom, mais le bureau du roi. Les boiseries parlent donc de sa royale mission. Gouverner la France en exerçant son autorité sur le commerce, la marine, les sciences ou les arts. D'ailleurs, chaque panneau sculpté est surmonté de fleurs de lys, le symbole de la royauté. Il ne faudrait pas qu'il y ait des jaloux. Le souverain protège chacune des activités de son royaume, sans en abandonner aucune. Louis XVI a longtemps eu la réputation d'être un roi bené et médiocre. Cette petite pièce, réservée à son usage privé, montre pourtant un tout autre visage. Il s'agit presque d'un programme politique. La guillotine l'a empêché de le mettre en œuvre, mais aujourd'hui encore, son cabinet témoigne de ses goûts et de son intérêt pour son pays.
Si aujourd'hui on peut admirer cette pièce dans toute sa splendeur, c'est grâce au mécénat de Lady Mickleham of Hellingley, par l'intermédiaire de la Société des Amis de Versailles. Merci, my lady.